Comme je vous le disais hier soir, l'entretien exclusif que Robert Bresson, l'auteur du journal d'un curé de campagne, de « Un condamné à mort s'est échappé » et du « Pickpocket », nous a paru mériter une diffusion spéciale. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est passé quelque chose d'unique dans les petites annales du Masque et la Plume. Vous avez entendu hier nos quatre critiques de cinéma, France Roche, Georges Charansol, Jacques Doniol-Valcroz et Claude Mauriac, unanimes, déclarait que le pickpocket était un événement capital dans l'art du cinéma, ce qu'ils n'ont jamais dit à cette tribune à propos d'aucun film. De plus, il est rare d'entendre un homme de cinéma parler avec cette intelligence et cette simplicité de son art. Avec Bresson, c'est une vie plus intérieure qui naît sur l'écran. Voici comment il l'a expliqué aux spectateurs du Masque et la Plume. Robert Bresson, est-ce que vous avez entendu ou non ce que nos critiques, dont je dois vous répéter, ils ont été, je crois, je ne sais pas, enfin, je prends les spectateurs à témoin, c'est la première fois que je vois que Charansol et Doniol-Valcroz ne s'arrachent pas les cheveux. Naturellement, en coulisses, ils sont en train de s'expliquer qu'ils n'ont pas aimé le film pour les mêmes raisons et que Doniol trouve les raisons de Charansol mauvaises. C'est la première fois que nous avons ici nos quatre critiques généralement divisées, unies dans l'admiration pour le pickpocket, ce qui rend mon boulot très difficile. Il faut rappeler que vous avez été un peintre. Et est-ce que je peux me permettre de poser cette question ? À certains moments, certains de nos confrères m'ont contredit tout à l'heure quand j'ai dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait dans ce film des tableaux composés. Je pense à un plan précis, au café, quand l'ami ange gardien s'en va et qu'il reste avec la jeune fille. Il y a un travelling arrière, je crois, je n'en suis pas sûr.
Il y a un travelling tout le temps. Alors, je peux pas
est-ce que vous avez voulu, vous avez pensé à...
La question de l'introduction de la peinture dans le cinéma est une question dont on pourrait parler à l'infini.
Oui, et mais parlons-en au défini, alors.
Que pour moi, peintre, il s'est passé des choses que je n'avais pas du tout prémédité, c'est-à-dire que de la peinture, je ne tire que des lois générales, mais comme absolument intuitivement, je tourne le dos à ce qui pourrait être faire penser à un tableau ou à une belle image. C'est-à-dire que je fuis la belle image.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je ne cherche pas de belles photographies, je cherche des photographies nécessaires, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, il se trouve qu'elles peuvent être
belles. Il se trouve que cette photo, je prends une fille qui regarde la foire, il est normal qu'elle ait le coude comme ça, mais il est évident que si vous voulez toucher le spectateur du film, il faut aussi que cette image soit ordonnée, de même qu'il faut que soient ordonnés tous les éléments du film. Donc il est possible que là, il y avait un souci de composition, qui est d'ailleurs mon souci habituel, mais qui n'est pas du tout dans le sens de la belle image.
C'est ça, oui. Parmi les questions que nous avons soulevées tout à l'heure, il y a la question de l'abstraction. Ah. On a beaucoup parlé du mot abstrait.
Alors,
moi,
mot
j'ai
abstrait,
été un peu révolté, mais c'est parce que...
Qu'est-ce qu'il veut dire, le mot abstrait ? Il veut dire, je crois, séparer une partie de quelque chose, une partie d'un tout de quelque chose, pour l'examiner à part.
Oui.
Or, je suis pleinement d'accord sur cette formule, étant donné que pour moi, le cinéma n'est pas du tout le cinémascope ni le cinérama, qui sont d'ailleurs des erreurs, qui sont rétrogrades.
Oui.
Et j'ai dit, et je répète, que si le cinéma était né cinémascope, ce serait une grande découverte, l'écran normal. Je dis que si on me reproche, si c'est un reproche, d'abstraire, d'être abstrait, je dis ce n'est pas un reproche, c'est exactement ce que le cinéma doit faire, c'est-à-dire non pas montrer des choses dans leur liaison habituelle, dans leur rapport habituel de la vie, c'est de prendre des parties d'un certain tout, de les isoler et de les remettre ensemble dans un certain ordre. Donc, si je suis abstrait, si on a vu que j'étais abstrait, je m'en félicite, puisque c'est uniquement mon souci. C'est-à-dire ne pas prendre un personnage tout entier, si vous voulez, si c'est une personne, voir quel rapport a sa main avec son visage, sa main avec un objet qui est sur la table, et recréer des rapports qui sont des rapports à moi, qui forment ma vie personnelle à moi et ma vie intérieure. C'est-à-dire arriver à faire sentir au public, non pas à montrer au public ce que je vois, mais à faire sentir au public ce que je sens, qui n'est pas du tout la même chose.
C'est ça. Alors, vous avez dit, vous avez prononcé le mot « vie intérieure ». Je ne pouvais pas rêver de meilleure transition, puisque nous aimons l'ordre à cette table, l'un et l'autre, pour vous demander ce que vous pensez d'une interprétation qui peut paraître évidente aux yeux de certains, qui est celle qu'a donnée notre ami Louis Malle de votre film, dans un article qui a fait un certain bruit, et dans lequel il explique très clairement, vous n'avez pas du tout vu un film sur le vol, ni sur les pickpockets, ni sur les procédés de vol de portefeuille dans le métro, mais vous avez vu le pêcheur, le commissaire de police, c'est pas un commissaire de police, c'est le bon Dieu, le bon ami, c'est l'ange gardien, la jeune fille, c'est l'ange, etc. Bon, bref, un film sur le péché et sur la rédemption. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il n'y a pas un sujet, d'ailleurs il pourrait aussi n'y avoir pas de sujet du tout dans un film, ce qui serait l'idéal d'ailleurs. Mais je pense que dans un sujet, il y a 1000 sujets, c'est-à-dire qu'il y a 1000 côtés d'où on peut le voir. Il est certain que dans ce film, ce qui m'intéresse moi, dans ce film comme dans les autres, c'était au moyen de choses concrètes, obligatoirement concrètes, puisqu'on a un appareil qui attrape les choses concrètes, je ne peux pas parler un autre langage, je ne peux pas prendre un nuage ou une chose qui n'existe pas, au moyen de ces choses concrètes, arriver à la vie d'une âme, c'est-à-dire ce qui me semble manquer dans les films habituels, où tout semble être tellement pris de l'extérieur et tellement théâtral, que moins ce qu'il y a dans le théâtre, c'est-à-dire la présence en chair et en os, ce qui fait le théâtre, c'est la présence réelle.
Oui.
Sans présence réelle, il n'y a pas de théâtre. Qu'est-ce qu'est le cinéma actuellement ? C'est du théâtre photographié. Qu'est-ce qu'est la photo ? Une reproduction. Qu'est-ce que vaut la reproduction ? Rien du tout.
Oui, mais c'est quand même un problème moral que de voler.
Bien sûr, mais pourquoi voulez-vous que je fasse un film moral ? Je
veux dire... Ah non, moi non.
Je ne cherche jamais à faire un film moral, non. Loin de là. Mais je cherche à tout de même donner au public les sentiments que je éprouve devant certaines choses, certains événements de la vie, mais ce n'est pas les événements même qui comptent pour moi. Je veux dire que les événements ne sont que l'occasion d'arriver à une vie autre que la vie physique, c'est-à-dire une vie intérieure, une vie de l'âme.
C'est ça.
Mais je suis bien obligé d'employer des choses concrètes comme moyen d'arriver à cela.
C'est-à-dire, vous êtes obligé de faire ce que Valérie ne voulait pas, il faut bien faire sortir cette fameuse marquise, il y a une certaine heure.
Mais bien sûr.
Ça, vous le faites, n'est-ce
bien
pas
sûr.
Mais alors, par exemple, l'ange gardien, l'ami très gentil, il n'était pas si bien que ça, croyons-nous avoir compris.
Alors, aller jusque-là, je n'ai jamais pensé à un ange gardien, mais il est certain qu'il y a de telles correspondances et de telles coïncidences dans la vie pour les gens qui veulent voir. Malheureusement, notre époque est un peu une école d'inattention. Je veux dire qu'on nous apprend, la radio, les magazines, la télévision nous apprend à regarder sans voir et à écouter sans entendre. Mais pour qui ? Ce que je voudrais, c'est apprendre au contraire à voir. Quand j'étais petit, on n'apprenait qu'une seule chose, c'était, on me disait, fais attention. Et maintenant, il semble qu'on dit à tout le monde, ne faites pas attention.
Oui.
C'est très grave.
Oui,
je veux dire, c'est
sûr.
Une chose extrêmement grave. C'est-à-dire que plus nous ferons une chose précise, moins les gens la verront. Je suis persuadé, je peux me tromper. J'ai beaucoup plus de confiance dans le vrai public, celui qui sent, que dans le petit public qui cherche à faire marcher son intelligence avant de sentir.
Oui. Alors, je veux bien me ranger tout de suite dans ce pauvre petit public qui fait marcher son intelligence, ça m'est égal.
Non, mais...
Je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que vous avez voulu que ce ne soit pas seulement des objets, des parcours dans un escalier.
Je veux arriver, je ne dis pas du tout que j'y arrive, mais je voudrais arriver à montrer... Il y a un mot de Pascal, je crois, qui dit « Chaque chose cache un mystère, arriver au mystère ». Mais ce n'est pas par les moyens du théâtre, ce n'est pas possible. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Un film ne doit pas être un spectacle, on le pousse vers le spectacle tout le temps. Si le film est un spectacle, il ne peut pas être un spectacle puisque le spectacle demande la présence réelle, la présence en chair et en os. Enlever cette présence n'est plus un spectacle. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une reproduction. Qu'est-ce que c'est que la reproduction d'un tableau ? C'est une chose morte. Ce que j'essaie de faire, je ne dis pas du tout que j'y arrive, mais j'essaie par certains moyens... Et c'est peut-être justement en tuant les interprètes d'une certaine mort, pour les faire renaître sur l'écran. Je voudrais que le spectateur assiste à une naissance, et non pas à quelque chose qui est déjà fait, qui a déjà eu lieu, une naissance qui est jouée, dont le phénomène a été photographié.
Il me semble que c'est exactement ce qui se passe à la dernière image du film, quand on voit le dernier regard de votre héros, on a vraiment l'impression qu'il commence...
Un film n'est pas fait d'images, il est fait de rapports d'images. Et il faut que ces rapports donnent une vie. De même que pour les couleurs, pour la peinture, un bleu est un bleu, mais si vous le mettez à côté d'un jaune, ce n'est plus le même bleu. Ou à côté d'un rouge et d'un jaune, c'est encore plus le même jaune, ni le même bleu, ni le même rouge. Je veux dire qu'un film, non seulement est fait d'éléments qui sont des images, mais est fait de sons.
Oui, c'est là.
Et non seulement de rapports, mais de rythme. C'est-à-dire qu'il faut arriver à toucher avant tout par la forme. Vous savez que Valérie disait quelque chose comme ça, la forme doit avoir valeur d'une idée. Vous savez, d'ailleurs, en poésie, le maître a quelque chose qui est déjà une idée. En tout cas, ce que je cherche, je ne dis pas du tout que j'arrive, mais j'essaie de de parler cinéma avec un certain langage qui est propre, et je refuse de me laisser aller à la traîne du théâtre photographié.
C'est ça. C'est-à-dire... C'est-à-dire, et ce sera ma dernière question avant de donner la parole à ceux des spectateurs qui voudraient vous en poser, que vous avez voulu, pour la fameuse scène du champ de course, ou pour l'admirable séquence de la gare de Lyon, ce ballet extraordinaire au moment du départ du train, vous avez voulu donner de l'importance à certains objets, et en même temps, on ne voit pas ce que l'on s'attend à voir d'essentiel.
La police m'avait expliqué, un jour, je suis allé avec eux au Grand Prix de l'autre année, oui. Et malheureusement, il y avait... À ce moment-là, l'exposition de Bruxelles, et tous les pickpockets étaient à Bruxelles. Alors, il n'y avait pas de pickpockets au Grand Prix, alors je n'ai assisté à rien. Mais ils m'ont dit que quand il y a une bande de 3 ou 4 ou 5 pickpockets très habiles, internationaux, dans une réunion comme celle de Longchamp, il y a quelque chose d'invraisemblable qui se passe. Je veux dire que c'est dans l'air autant que dans les portefeuilles, vous comprenez ce que je veux dire. Cette présence rapide d'une main, cet escamotage, cette disparition même, ce regard éclair...
Oui.
Intelligent et rapide, et cette disparition des objets et des personnages.
Oui. J'étais pas très très riche le jour où j'ai vu votre film, mais j'ai eu vraiment, par moments, je ne sais pas si les spectateurs ont eu cette impression, ce tic nerveux de temps en temps tripoter ma... c'est absolument affolant, il y a des moments où on se dit, ça y est, on regarde son voisin de droite et on se dit, c'est lui. C'est en tout cas...
Non, je vais vous avouer quelque chose, c'est que ce n'était pas par tic nerveux, mais que la veille de la sortie du film, j'ai été cambriolé.
Chez vous?
Chez moi. Vous voyez, ce genre de coïncidence auquel je crois beaucoup.
Ah oui, moi aussi, oui, je trouve ça très, très frappant. Est-ce que dans la salle, il y a des spectateurs qui veulent poser des questions techniques, philosophiques, métaphysiques, artistiques? Oui, 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 il y a, attendez. Monsieur?
J'ai vu le film de Monsieur Bresson, je l'ai trouvé très intéressant, très bien. Depuis que j'ai entendu la discussion, je le trouve très beau, très admirable.
Oui.
Oui. Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis un du grand public qui voit des films, qui va beaucoup au cinéma et qui est abîmé, évidemment, par le cinéma classique et le théâtral dans le cinéma et le commercialisme. Et en y pensant, évidemment, c'est très beau. Et je remercie beaucoup M. Bresson de donner ce coup de bélier dans le commercialisme du cinéma. C'est une épreuve très rude, pour lui certainement. Je voulais lui demander si lui-même va beaucoup au cinéma. Depuis combien de temps et quel genre de film voit-il?
C'est très facile de répondre. Je ne vais presque jamais au cinéma. Je ne vais jamais.
Jamais, vraiment?
Oh, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, peut-être.
Et une autre question, là-bas?
Ce n'est pas du tout par... par peau. C'est par impossibilité... L'impossibilité de rester dans une salle où je vois du théâtre photographié.
Mais pas Hiroshima, par exemple.
Alors, ça, malheureusement, je n'ai pas eu un jour de repos depuis 8-10 mois. Je n'ai pas vu, mais il y a 2 ou 3 films comme ça que je vais sûrement me précipiter pour les voir.
Oui.
Il y a Hiroshima, il y a le film de Truffaut, il y a 2 ou 3 autres films importants,
oui,
que je vais aller voir. Mais j'ai peur de me trouver encore une fois devant...
Ah, pas Hiroshima, non.
Non.
Non. Monsieur?
Il y a une chose qui m'a énormément déconcerté. Je n'ai pas compris pourquoi les interprètes doivent parler faux, surtout le
surtout héros. Martin Lassalle.
C'est ça.
Bon, alors ça, c'est en effet la grande question. Merci, monsieur. Robert Bresson.
Je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles je vais de moins en moins au théâtre en plus, c'est que quand j'entre dans une salle de théâtre et que j'entends les premières paroles dites par des acteurs professionnels, ça me paraît tellement faux que j'ai envie de fuir. Donc, il y a sûrement là quelque chose... Il y a un décalage ou une habitude de l'oreille. Nos oreilles ne sont pas les mêmes, mais je prétends que je ne dis pas qu'ils parlent exactement comme dans la vie, mais je dis qu'ils parlent juste. Si vous voulez, je prétends que mon piano à moi est accordé et que c'est le piano du théâtre qui est désaccordé.
Moi, je peux dire en tout cas que j'ai vu Martin Lassalle 2 fois et pour les questions les plus banales, oui, que j'ai pu lui poser, la conversation banale que j'ai pu avoir avec lui, est-ce que vous prendrez un peu plus d'eau dans votre whisky, je sais pas quoi, il parle comme ça, mais il y a tas de gens qui parlent comme ça.
Mais juste ne pas dire que je n'ai pas poussé à parler d'une certaine façon pour mon oreille, que je trouve juste.
Oui.
Je veux dire, il est possible que là, c'est un cas très spécial, Martin Lassalle, mais est-ce que quelqu'un peut me dire que dans Le condamné à mort s'est échappé, il y avait un seul des personnages qui parlait faux? Bon, donc, il y a peut-être dans le cas de Martin Lassalle un cas très spécial qui fait qu'il peut sembler parler.
Il parle ailleurs.
Pas juste, oui. Ouais. D'être pas présent plutôt que parler faux.
Ah oui, mais ça, il le dit dès le début du film. Oui. Enfin, il le dit, si vous me permettez. Il oui. décolle, n'est-ce oui. pas, tout de suite.
Que je crois qui est difficile, peut-être, mais qui est peut-être au contraire reçu d'une façon très sensible, c'est qu'il est très difficile de faire un film de la solitude. La solitude qui engendre le dépouillement et la froideur est une chose très désagréable, peut-être, à supporter. Mais est-ce que je devais réchauffer la solitude?
Non, ça aurait été faire du...
Je crois que le sujet de la solitude est un sujet très difficile, très dangereux à mettre à l'écran. Il est possible, c'est peut-être oui. ça. Je
Il y a le réalisme socialiste qui s'oppose au réalisme solitaire.
Oui.
Je me demande, Monsieur Poisson, si...
Oui.
Penser à Crime et Châtiment, parce que les nombres de
scènes qu'il évoque... J'ai sûrement pensé, parce qu'on ne peut pas penser à Dostoïevski, qui pour moi, pour nous tous, pour tous les gens de notre époque, est un grand modèle. Et qui est un grand modèle de tous les points de vue, même du point de vue roman policier.
Mais enfin, il y a un certain nombre de scènes qui évoquent, de toute façon...
Très précisément.
Enfin, qui rappellent,
très possible, oui, très possible.
Il est impossible de ne pas se
souvenir. Je n'ai pas eu le temps, comme j'ai écrit cela tellement vite, comme jamais personne ne s'est pressé, il est possible que je n'ai pas eu conscience...
L'analogie
des situations. La situation finale, il est évident que c'est la même que celle de la rédemption par la faute.
D'abord, et puis la scène du policier, ensuite le fait que le oui. héros, n'est-ce pas, cache ce qu'il
son
a.
Son trésor.
Son oui. trésor derrière
sûrement,
une plainte.
Sûrement, il y a quelque chose.
C'est ah, également oui. dans.
Mais je n'en suis pas.
C'est peut-être
tout.
À votre insu.
Oui. Absolument inconscient pour vous. Oui. Derrière toi, Jérôme, il y avait une question.
Pardon. Mais c'est trop tard.
Ah, c'est trop pourquoi tard. Elle est déjà venue?
Non, parce que je pense que les comédiens ne peuvent pas parler comme on parle dans la vie. Enfin, il me semble que c'est impossible, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il y a une façon de dire les choses qui est
justement,
qu'on
il,
doit
le,
apprendre.
Il est probable que les planches
qu'un monsieur qui arrive pour la première fois au théâtre ou au cinéma ne peut pas dire bien. Non. Il me semble que c'est impossible.
Robert Bresson.
Je crois que le théâtre impose, et surtout parce que l'acteur doit parler fort. Déjà, son ton est déformé.
Bien, il y a des choses à apprendre.
Alors, il y a un ton théâtre, malheureusement, qui a déteint sur le ton cinéma. Et là, moi, je suis stupéfait, mais pour mon expérience personnelle, de la façon dont on parle faux au cinéma. Je ne me trompe pas pour moi-même, je peux me tromper pour tout le monde, je ne sais pas. Mais une certaine façon de parler dans un film n'est pas uniquement pour... L'essai d'arriver à un ton juste dans le sens où un piano est accordé ou n'est pas accordé. C'est aussi parce que je cherche un tout petit peu à donner une parenté à mes personnages. Pour une raison d'abord d'unité, c'est-à-dire que je cherche la chose la plus difficile quand on fait un film, c'est de ne pas se laisser éparpiller. Le film va partout. Donc il faut essayer de tout rassembler pour avoir cette unité qui est indispensable si on veut frapper, si on veut toucher.
Oui.
Bon, il est possible que tout ça est absolument intuitif, que dans la façon... dont mes interprètes parlent, il y a quelque chose qui vient de moi qui fait que je les tiens dans un certain cadre, de façon à ce que tout cela non seulement prenne unité, mais il y a aussi une autre chose très importante et que je crois, c'est que plus deux choses se ressemblent, plus elles sont différentes. En ce sens, je veux dire, plus oui. vous voyez la différence.
Oui.
Si ce sont deux choses presque voisines, la différence éclate. S'il faut faire une comparaison entre une chose qui est ça et une chose qui est tellement loin d'elle, Il y a moins de différence. Je veux dire que c'est peut-être en essayant de donner une certaine parenté à mes personnages que je les rends plus personnels et plus différents.
Je pensais vous demander des clés pour le pickpocket. Vous ne voulez pas les donner, vous ne pouvez pas les donner, vous nous laissez les trouver. Moi, je garde la mienne,
oui.
Qui ressemble beaucoup à celle de Louis Malle, d'ailleurs, ou de très près.
Oui.
Mais vous avez dit à un ami qui me l'a répété que si vous aviez été libre de donner à votre film le titre que vous vouliez, qui vous plaisait le plus, il paraît que vous auriez dit que c'était incertitude.
Je ne crois pas avoir dit ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais je dis que ce qui fait le drame du film, c'est l'incertitude. Le drame de cette histoire, c'est l'incertitude. Et l'incertitude est autour de tous les voleurs. Je veux dire qu'un voleur, ce qui est terrible pour lui, c'est de ne pas savoir s'il a été vu ou pas vu. Et vous savez que la police m'a dit que les voleurs beurrent généralement cardiaque.
Oui. Alors ça, après ce qu'ils font dans ce film, on s'en doute, ça c'est...
Je veux dire que c'est très important parce que ce sont des gens qui ont sûrement des choses dont nous ne doutons pas. Par exemple, de vivre dans l'incertitude constante, c'est bien, si vous voulez, c'est le... Comment ça s'appelle le supplice par l'incertitude.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui vivent à la fois dans quelque chose qui est une drogue pour eux, tellement drogue qu'il paraît aussi qu'ils ne supportent pas la prison. Ils ont généralement peu de prison, mettons 6 mois, 1 an.
Oui.
Mais la plupart se suicident ou tentent de se suicider, même pour quelques mois de prison.
Oui.
Il y a donc autour d'eux un drame qu'ils se créent d'ailleurs, et qui est leur drogue, qui est peut-être le drame de l'incertitude.
Ah, il y a encore une autre question, une dernière question, mademoiselle.
C'est pas une question, mais c'est à propos de ce que M. Bresson disait, que le film était une mise en ordre, une suite de rapports entre ce qu'on disait, ce qu'on entendait, et le moment où on disait ces choses. Il y a une scène du film que je trouve bouleversante, c'est quand Jacques vient trouver Michel dans la chambre le soir du dimanche où ils sont sortis avec Jeanne.
Oui, et où il est blessé.
Oui. Michel lui dit à la fin, tu l'aimes, en parlant de Jeanne, avoue. Jacques ne répond rien et part. À ce moment-là, Michel, debout devant la porte, sort la montre qu'il a volée et dit seulement, la montre était très belle. Et la musique part sur cette phrase.
Oui.
Je trouve que rien n'est dit au fond, puisque cette phrase est très banale, mais tout est suggéré, et à partir de ça, on se rend compte de...
Oui, c'est exact. Je comprends ce que vous avez senti, et j'en suis très touché. Il y a peut-être trop de condensation dans ce film, mais j'essaie justement d'être au bord du trop-dit, pour essayer d'exprimer tout ce que les paroles disent d'habitude dans d'autres films, de l'exprimer par des silences ou par des choses à peine perceptibles qui se passent sur les visages ou dans les yeux. Mais il y a quelque chose de curieux, c'est qu'il y a quelques années, on disait qu'un film était vraiment du cinéma quand il n'y avait pas de dialogue. Maintenant, j'ai eu le malheur l'entrée l'autre jour, je ne dirai pas dans quel film, j'ai entendu des dialogues, mais sans aucune fin sur une chose qui ne comportait pas de dialogue. Et voilà maintenant à quoi on habitue le public, c'est-à-dire à des dialogues non écrits, qui n'ont ni forme, ni même sens, alors que l'image seule pourrait dire tout ça. Et j'assiste à des films qui sont entièrement des pléonasmes, c'est-à-dire où l'image n'apprend absolument rien de plus que ce que dit la parole, et la parole n'apprend rien de plus de ce que dit l'image. Et au contraire, j'ai essayé dans cette scène-là d'être au minimum au bord du trop-dit, mais de laisser tout au mystère, et en plus de donner un poids aux choses par leur rythme.
Une question encore. Le représentant du ministère de l'Intérieur à la censure, c'est peut-être une question indiscrète. Il semblerait assez normal qu'il aurait mis une objection au film, parce qu'il y a tout de même tout le côté documentaire, semblerait une démonstration d'escamotage.
C'est aussi une façon de prévenir les gens et de faire attention à leur portefeuille.
Merci, Robert Bresson, d'être venu à notre tribune. Il y a encore une autre question. Je crois que personne ne voudrait vous lâcher. Mais il faut vraiment que j'interrompe ici, parce qu'on me fait signe que le théâtre doit être libéré. Enfin, une dernière question pour mademoiselle. Rapidement.
Oui, très rapide. Je voudrais savoir de quelle œuvre de Lully... Enfin, quelle œuvre de Lully on entend...
Ah.
C'est une suite en sol mineur. Elle n'est pas enregistrée, mais elle va l'être. Je crois qu'il va y avoir un disque sur la musique du film bientôt.
Il fallait attendre le pickpocket pour qu'on enregistre Lully. Ce sont de ces choses bizarres. Merci, Robert Bresson. Merci.
Avec cette interview de Robert Bresson se termine notre émission. Prochain enregistrement le samedi 23 janvier à l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail à 16h. Et prochaine émission sur cette même antenne le jeudi 21 janvier. Vous pouvez nous adresser vos suggestions et aussi vos critiques à l'émission Le Masque et la Plume, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Merci, au revoir.